Bienvenue à chacun, et c'est vraiment une joie effectivement pour moi d'être ici. On a deux garçons à la maison et on se voit que la relation entre les deux frères, un à 4 ans, un à 2 ans, c'est pas toujours gagné. Je me dis, est-ce qu'on était comme ça, Samuel et moi? Mais quelle joie maintenant, 40 ans plus tard, d'être ensemble dans un contexte du ministère. C'est vraiment une grâce. Je suis vraiment reconnaissant pour les liens forts entre l'Institut biblique de Genève, là où je travaille, dans le staff, et l'église ici, EBTM. Vraiment très reconnaissant. Merci déjà pour l'accueil ce week-end, pour notre formation Welsh Weekend Leader Jeunesse. Ça se passe très bien, une vingtaine. Vous êtes où les participants, voilà, du Welsh? Vraiment chouette. Merci pour l'accueil ici de l'église. Et aussi, je suis entré à l'Institut. Jean-Philippe et Daniela vont bien. Ils m'ont dit de saluer, vous saluer. Ils profitent de l'année et c'est vraiment chouette de voir plus les étudiants. Donc, peut-être je profite, je vous donne juste quelques nouvelles. Donc, on a une promotion en premier cycle, en première année, de 40 étudiants. Donc c'est vraiment un grand groupe, mais ils sont vraiment bienveillants, ça se passe bien. Donc on est vraiment encouragés de voir l'enthousiasme. On prépare la conférence nationale d'Évangile 21. Il règne le 13 au 16 mai. Donc vous êtes invités, les inscriptions sont ouvertes pour la conférence Évangile 21. Et peut-être même si ça vous intéresse, peut-être de faire une année de vous former. On a des journées portes ouvertes, trois dans l'année, gratuites, et vous pouvez venir découvrir l'Institut. Donc, vous êtes invités à découvrir plus sur l'IBG. Aussi, je pense qu'il y a pas mal ici dans l'Église qui ont une certaine connaissance, donc, et c'est vraiment chouette. Merci. Merci pour vos prières. On a tellement besoin de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu dans notre ministère, et on est très reconnaissants. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. J'espère que vous avez une Bible, et trouver Ésaïe 55. Et je vais lire le chapitre, versets 1 à 13. Ésaïe 55. Alors, il y a un sujet de prière qui revient parmi les étudiants en premier cycle. Ils ont dit ça au début de cette année. On a un sujet de prière et c'est le suivant. On prie que la Bible ne soit pas juste un livre d'études, mais quelque chose qui transforme. Je ne sais pas si vous avez déjà prié cette prière. C'est surtout pertinent pour les étudiants en théologie, non? Parce que c'est vrai, ils vont avoir des devoirs, il faut quand même étudier la Bible, c'est un peu l'objectif. Mais la Bible est bien plus que juste un livre d'études, n'est-ce pas? Et peut-être autant pour un étudiant en théologie, autant pour nous. Je ne sais pas, est-ce que vous avez commencé un plan de lecture de la Bible en janvier, début de cette année? Peut-être que vous étiez motivé. Alors là, on est en novembre. Comment ça va? Et on a la charge des fêtes. Et peut-être il y a un certain découragement. Ou peut-être vous êtes là et vous êtes... Vous connaissez très peu de la foi chrétienne, vous êtes en réflexion. Et l'idée de passer du temps à lire un livre qui date d'il y a 3000 ans, 2000 ans, ça vous semble un peu bizarre. Mais pourquoi ça vaut la peine? Et j'aimerais juste ce matin vous rappeler comment la Bible nous invite à lire la Bible, pour nous encourager. Et en fait, la Bible nous donne une invitation assez extraordinaire. Et c'est ça ce qu'on voit dans ce chapitre en Ésaïe 55. Donc, lisons avec moi Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, venez. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi, vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents.
Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme témoin pour les peuples, comme un guide, un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres l'accompagnent, battront les mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cypre, au lieu de l'ortie poussera le myrte et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Car ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Vous captez, on a une invitation ici. En fait, dans ce chapitre, on a deux invitations. C'est ce que je vais regarder avec vous, deux invitations. Une première, une invitation à écouter. À écouter parce que nous avons soif pour ce que la vie... pour la vie que Dieu seul peut donner. C'est la première invitation. Vous avez vu ça dans le premier verset, non? Vous tous qui avez soif, venez. Trois fois. Venez, venez, venez acheter, venez, venez. C'est vraiment, ça insiste. Venez. Alors, à qui est adressé? Venez qui? Ceux qui cherchent des soldes sur le Black Friday? Ceux qui ont des moyens? On vous propose un prix quand même intéressant ici. Venez, venez. C'est surprenant, hein? Venez, vous qui avez soif, et celui qui n'a pas d'argent. Ceux qui sont assoiffés et ceux qui sont pauvres. Alors ici, ce chapitre s'adresse au peuple d'Israël. Un peuple qui va connaître l'exil. Parce qu'ils étaient infidèles envers Dieu. Ils vont traverser tout un désert. Ils vont tout perdre. Et Dieu va faire quelque chose, et à ce peuple, Dieu invite. Dieu donne cette invitation. Vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Et quel est le danger ici? Pourquoi dépensez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Apparemment, finalement, ils ont un peu d'argent. Mais il dépense pour ce qui ne rassasie pas. C'est le gars qui dépense 20 euros dans un petit tabac pour acheter des vieilles chips et du Fanta qu'on a à côté. Il a un chèque blanc illimité au resto de 5 étoiles. Mais il continue. Les chips, le Fanta, ça me va bien, ça coûte cher. D'ailleurs, comme à Genève, hein, si vous passez à Genève, vous allez voir, Fanta va vous coûter cher. Et... mais est-ce que vous avez mis ça littéralement à manger? Ben non. Qu'est-ce que Dieu propose ici, fondamentalement? Vous avez vu sous ça dans le verset 3? Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Bon, il ne s'agit pas hein, d'un confit de canard ou une bonne fondue, mais la vie que Dieu donne. Et comme un bon repas fait du bien à notre corps, Dieu et la parole que Dieu, qui sort de la bouche de Dieu,
nous donne une vie qui est grande et riche. Alors, vous savez ce qui est extraordinaire dans cette invitation? Surtout si on met un peu dedans le livre d'Ésaïe. C'est qu'au début du livre, le peuple était jugé pour le refus d'écouter Dieu. Si on revient au chapitre 6, là où Dieu va finalement juger le peuple, et il donne à Ésaïe une mission qui est terrible, il dit, vous allez dire au peuple, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, mais vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, mais vous ne saurez pas. Fait un lien avec le fait qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont suivi des idoles, ils ont rejeté l'amour et la grâce de Dieu pour être bien satisfaits avec leurs chips, leurs Fanta, au point qu'ils n'étaient même pas capables d'écouter et répondre. Et même plus tard, le peuple sont appelés les sourdes et les aveugles, chapitre 42. Dieu appelle, il s'adresse à son peuple, sourdes, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Et ici, on a une invitation à écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est introduit entre Ésaïe 6 et Ésaïe 55. Et c'est un personnage. C'est le fameux serviteur d'Ésaïe que Dieu va envoyer. Ce envoyé de Dieu, ce serviteur, il va déclencher quelque chose. Et juste avant, si vous connaissez bien la Bible, Ésaïe 53 qui présente ce serviteur qui va souffrir pour le peuple. Juste avant, on a Dieu qui dit, et là, à ce moment-là, mon peuple va écouter. Mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura ce jour-là que c'est moi qui parle. C'était pas gagné de pouvoir écouter et recevoir cette invitation. Mais grâce à ce que ce serviteur va faire, le peuple ne veut pas écouter. Et vous savez quoi aujourd'hui? Ce serviteur, il est venu, il s'appelle Jésus-Christ. Il a nous envoyé, il a pris notre place, il est mort pour nous, il nous envoie l'Esprit afin que cette invitation en Ésaïe 55 soit valable pour chacun ici aujourd'hui. De venir, d'écouter et répondre à cet appel. Parce que regardez l'offre. Donc, Dieu invite, mais à la fin, il précise son offre. Hein. Voici ce que je vais vous donner. Regarde, verset 4. « Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Alors, pour un peuple qui a connu l'exil, chassés de leur pays, le jugement à cause de leur infidélité, c'est difficile d'imaginer une promesse plus extraordinaire. Dieu dit, en fait, vous ne méritez pas, vous avez passé par le jugement, vous avez passé par l'exil, mais je ne suis pas fini, ce n'est pas la fin. Je vous donne une deuxième chance et je vais conclure avec vous une alliance qui est éternelle, qui va durer à jamais. Et continue. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, des nations qui ne connaissent pas, accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu qui te donne sa splendeur. Israël, à ce moment, il connaît la honte, le mépris, l'hostilité de toutes les nations autour. Et Dieu dit, je vais vous donner une telle vie, une telle splendeur, que les nations autour vont courir pour voir ce qui se passe chez toi. Parce que Dieu lui-même va donner sa splendeur. Je vais vous donner une vie, une telle vie, une telle grâce, un tel amour, une grâce assurée, permanente, solide. C'est une telle splendeur que ça va envoyer. Les nations vont courir pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est tellement énorme ce que Dieu va faire avec son peuple. Cette invitation est réelle aujourd'hui, accomplie en Jésus-Christ. Mais c'est quoi qu'il faut avoir pour répondre à cette invitation? On revient au premier verset. Vous tous qui avez soif. Une vie, cette grâce assurée, cet amour, ça correspond à la soif la plus profonde chez l'être humain. Qu'on le veuille ou pas, on a soif pour une alliance éternelle, un amour infinie, éternelle, sur une vie qui va même au-delà de la mort, une vie éternelle, une vie, une splendeur que seul le Dieu vivant peut donner. Et est-ce que savez-vous que vous avez soif pour cela? On a soif. Et en fait, je pense qu'on peut, on peut même dire que cette capacité d'avoir soif, c'est un des aspects de notre humanité les plus précieux. Non, nous étions créés pour lui. Et au fond de nous, il y a cette soif. Je pense que c'est beau, un commentateur qui écrit, « Là où Dieu donne grâce, il donne d'abord la soif de la recevoir. » Je ne sais pas quand vous allez ce matin, vous traversez quelque chose et vous vous rendez compte, ça ne va pas. Vous vous rendez compte, vous avez une soif profonde en vous que les choses, que le matérialisme ne répond pas, que juste les relations humaines ne répond pas, que juste le travail, le réussite professionnelle ne répond pas. Enfin, bienvenue au club, bienvenue à le statut humain, on a une soif. Et je pense que le danger n'est pas que nous retrouvons avec souci qui nous donne soif pour la grâce de Dieu, le danger c'est que nous réussissions à gérer notre soif sans lui. Qu'on arrive à se contenter avec les vieilles chips et la Fanta et on passe à côté de cette invitation au resto de 5 étoiles. Cette vie que Dieu donne. Et parfois la soif nous prépare pour la grâce. Et la grâce qu'on trouve dans la parole. Donc venez, si vous avez soif, vous vous rendez compte à quel point on a soif. Et je pense que c'est un paradoxe, parce qu'on dit « Non, ma vie est trop chargée, j'ai trop d'autres choses à faire, de vraiment passer du temps avec Dieu, d'écouter sa parole. » Et le paradoxe, c'est en fait, c'est la chose avant tout. Et ces autres choses sont juste des symptômes de cette soif. On cherche à remplir nos vies avec des choses, mais il faut arrêter. Ce n'est pas ça qui va fondamentalement nous satisfaire. Et Dieu nous invite à s'arrêter et à écouter, parce qu'on a soif pour ce que seul lui peut donner. J'aime bien le témoignage de Rosaria Butterfield, une femme américaine. Elle était professeure d'études féministes, farouchement opposée à la foi chrétienne. Et puis, elle a eu un contact avec un chrétien qui était ni dans le jugement, mais digne dans l'acceptation, qui a comme interrogé Rosaria. Et elle a commencé à lire la Bible. Et je lis, j'ai continué à lire la Bible tout en combattant l'idée qu'elle était inspirée, qu'elle venait de Dieu. Mais la Bible est devenue plus grande en moi que moi-même. Elle a débordé dans mon monde. Je me suis battu contre elle avec toutes mes forces. Je ne voulais pas perdre tout ce que j'aimais. Mais la voix de Dieu chantait un chant d'amour encore plus fort au milieu des ruines de ma vie. Et c'est terminé en se pliant, en acceptant que c'était vrai. Elle s'est rendue compte qu'elle avait soif, que quelque chose que une vie professionnelle ne pouvait pas donner, le regard des autres ne pouvait pas donner, les relations ne pouvaient pas donner, Dieu pouvait donner. Elle a commencé à écouter vraiment ce que Dieu disait dans sa parole et sa vie a été radicalement changée. L'invitation est ouverte pour vous aujourd'hui. Si vous avez soif, je vous dis, vous avez soif. Moi, j'ai soif. Et Dieu nous invite. C'est sa première invitation. Mais ça continue. Il y a une deuxième invitation dans la deuxième partie de ce chapitre. La deuxième invitation est la suivante. C'est une invitation à changer parce que les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées. Ouais, dans le verset 6, recherchez l'Éternel pendant ce qui se laisse trouver. Un verbe un peu encore plus fort, non? Venez, venez recevoir, manger, boire, vous avez soif. Et c'est beau comme ça commence. La grâce que Dieu donne. Et c'est vrai, si on a beaucoup faim et beaucoup soif et on est invité dans un bon resto, le repas va nous changer, non? On va sortir, le resto pas dans le même état, normalement. Et de la même manière, la grâce de Dieu nous change dans ce sens. Recherchez l'Éternel. Faites appel à lui que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Invitation à manger, mais aussi maintenant une invitation à changer. Voilà cette idée de changer de voie. C'est ce que la Bible appelle la repentance. C'est-à-dire on voit dans un sens et on essaie de changer, de réorienter notre vie sur une autre voie. Et peut-être on est là le méchant, David, on n'est pas des méchants ici, on est des gentils. Je vous rappelle juste deux chapitres avant, chapitre 53, où nous sommes tous comparés à des brebis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les brebis, mais ils ont tendance à quand même suivre leur voie. Ça va dans tous les sens. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et ici, 55, que le méchant abandonne, quitte sa voie pour s'aligner sur la voie de Dieu. Et finalement, on est tous invités à écouter, avoir cette vie, et cette vie va nous changer. On est invité à vivre la repentance. Bien sûr, au début de la vie chrétienne, de dire « Ok, je change. » Mais aussi en tant que chrétien. Pourquoi ? Parce que les pensées de Dieu sont supérieures aux nôtres. Vous voyez le verset 7 ? « Qui retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qui retourne à notre Dieu, il pardonne abondamment. » Et le verset suivant, 8, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. » Dieu, il a une intelligence bien supérieure à la nôtre. Ses voies sont au-dessus, plus élevées. Là, quelle est l'illustration qu'Ésaïe donne par la suite ? Le ciel est plus haut que la terre. De même, mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. C'est vrai, le ciel est quand même bien plus haut que la terre. Hein. Ce n'est pas juste une petite bosse qui est un peu plus haut que l'autre, mais quand vous prenez l'avion, non ? On se rend compte, waouh ! Il y a une sacrée distance entre la terre et le ciel. J'aime bien comme Martin Luther a commenté sur ces versets, « Les pensées de Dieu sont bien au-dessus de toutes nos pensées. Dans notre cœur, nous n'aurions jamais eu l'idée d'un pardon gratuit des péchés. La raison n'aimait pas que la justice soit gratuite sans aucun mérite. » C'est vrai. Mais les voies de Dieu sont bien plus élevées, non ? Que la repentance de changer puisse être une source de joie et que lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas des vies qui plaisent à Dieu et on revient vers Dieu, il déverse sur nous amour et pardon. C'est normal, ça ? Non, c'est pas normal. C'est humain, ça ? Non, c'est pas humain. Mais je pense à Luc Ferry, hein, Luc Ferry, sociologue, philosophe français, qui dit, sa conclusion, le christianisme, c'est trop beau pour être vrai. L'amour infini, l'amour tout-puissant, l'amour plus fort que la mort, c'est trop beau d'être vrai. Réponse d'Ésaïe 55 à M. Ferry. Les cieux sont bien plus élevés que la terre. C'est vrai, sacrée distance. Mais les voies de Dieu sont supérieures, les voies de Dieu sont tellement surprenantes, et les voies de Dieu nous invitent à la repentance. Et même nous, de refléter ces choses dans nos vies. Le pardon, est-ce que le pardon pour vous est naturel ? Ce n'est pas pour moi. De pardonner même les gens qui, mes ennemis, de pardonner. Est-ce que c'est naturel de vivre avec une générosité radicale, avec mon temps, avec mon argent ? Est-ce que c'est naturel pour les maris, vous les maris, d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église ? C'est naturel, ça ? De investir notre temps et notre énergie et même notre argent dans le projet de l'église locale. Nature de partager les bonnes nouvelles avec courage avec nos voisins. C'est pas les choses, c'est pas les voies naturelles. Mais les voies de Dieu sont plus grandes que nous. Et quel finalement privilège, c'est une invitation à changer parce que Dieu est plus grand et ses voies sont supérieures aux nôtres. Je me souviens. J'ai appris, quand j'avais 18 ans, j'ai fait 2 ans de violon. Mes parents m'ont dit, David, on te paye les leçons. Ok, donc j'étais 18 ans. Et j'ai un souvenir très clair, la première leçon. Ma prof a dit, ok, monsieur David, vous prenez le violon comme ça. Et il m'a donné un peu la position pour tenir le violon. Et je me souviens dans ma tête, j'ai dit, franchement, c'est une blague. C'est la position à moi naturelle, c'est pas possible. Comme ça ? Non, non, comme ça. Moi, je voulais prendre l'arche comme ça. Non, comme ça. Ok, le doigt comme ça. Mais on va jouer comme ça ? J'ai à peine juste de tenir la position. Ça me semblait tellement pas naturel. Et après, je commence à regarder d'autres violonistes. Et je dis, tiens, c'est vrai que tous les autres, les bons violonistes, ils ont exactement cette même posture. Ce qui semble tellement pas naturel pour moi. Et petit à petit, bon, j'avais J'ai commencé trop tard. Donc, je vois notre frère, je crois, il est dans la même position qu'il avait, et un bon violoniste. Tellement différent, mais c'est comme ça, sinon on n'arrive pas à jouer. On arrive à vraiment faire de belle musique si on n'apprend pas. Et vous savez, Dieu est en train de faire exactement ça dans nos vies. Et parfois on dit, c'est vraiment pas naturel ça, Seigneur. Je trouve bizarre, ses voix sont supérieures à la nôtre, et c'est exactement ça, la pratique de la repentance dans nos vies. Et on sait tout le temps, Dieu nous invite à changer, être changé par sa parole, à écouter, recevoir sa vie et ensuite de changer parce que ses voix sont supérieures à nôtres. Et ce chapitre termine quand même avec l'encouragement, ce que Dieu va faire. Si on accepte sa parole, si on se laisse être changé par elle, qu'est-ce que ça va produire? Et voilà l'image qu'il donne. Ça va produire la joie comme la pluie produit la vie. Et c'est magnifique, hein? Comme la pluie, verset 10, et la neige descend du ciel et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, il en va de même de ma parole. Elle va agir. Je ne sais pas à quel moment vous avez... C'est quand même assez extraordinaire, la pluie, non? Je pense qu'on est habitué, vous un peu moins ici dans le sud à Toulouse, mais quand même un peu. Nous, un peu plus à Genève, mais... Les scientifiques disent qu'un nuage cumulus... Vous savez comment ça pèse un nuage cumulus? Des milliers de kilos, environ le même poids de 100 éléphants. Il y a quelque chose qui a le même poids de 100 éléphants qui se balade dans le ciel et donc qui déverse l'eau là où il faut. Et puis vraiment, un nuage d'orage peut être des dizaines de millions de kilogrammes. Incroyable, non? Et puis ça tombe. Moi, j'ai grandi avec Sam, Samuel, on a grandi en Californie. Et on était en Californie, il ne pleut pas. Du coup, on appelle Golden California, la Californie dorée. En fait, c'est un nom sympa pour dire sec, la Californie sèche et brune. Hein. Tout est, il n'y a pas trop de verdure, quoi. Tout crame dans le soleil, comme ici, dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai fait mes études à Chicago. Et qu'est-ce que j'étais surpris, on arrive à Chicago et là, il pleut beaucoup. Et du coup, il a une verdure, mais pas possible. Ça pousse partout. Tout est vert. Tout... Bon, si vous montez dans le nord, c'est un peu comme ça, non? Verdure, tout pousse. Et voici l'image de la parole. Quand la parole est proclamée, quand la parole est lue, quand on est dans l'écoute, il y a une puissance comme la pluie de produire la vie dans nos vies. Et pas juste la vie, mais quoi? Et c'est ce qui est extraordinaire. Dieu donne une mission à sa parole et Dieu dit, cette mission, elle sera accomplie. Quelle est cette mission? Vous voyez, dans le verset 12, vous sortirez dans la joie. Cette pluie, lorsqu'on on s'ouvre la parole, lorsqu'on écoute la parole, lorsqu'on se laisse changer par la parole, c'est une pluie qui produit quoi? La joie. Mes amis, la joie et la paix dans nos vies. Et la pluie, elle est puissante, hein? Ça donne la vie. Et on n'a pas besoin d'avoir les vies un peu californiennes, tout sèches, tout cramées, mais remplies de verdure, la verdure de la joie et la paix. Vous serez conduits dans la paix, vous sortirez dans la joie, et même ça va toucher, ce sera les prémices d'un renouvellement de toute la création. C'est beau, hein? C'est poétique, mais c'est beau. Les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous. Au lieu des buissons épineux, le cypre. Je méditais sur ce verset. Et je pense, dans le contexte, les personnes comme le peuple d'Israël, qui sont indignes, qui ont soif, qui connaissent peut-être l'exil, qui acceptent la parole, qui change et qui vit la joie, c'est un miracle aussi grand que le renouvellement de toute la création. Et ça se passe ici, dans cette salle. Et peut-être ça veut passer ce matin, dans ton cœur. Dieu veut t'inviter à la repentance, à accepter sa parole, à écouter sa parole, afin que la joie et la paix règnent dans ta vie d'une manière que tu ne connaissais pas avant. Et ça,
C'est un miracle. Et ici dans Ésaïe, on voit que Dieu, il est puissant de tout. C'est le Dieu des galaxies. Et ici, on voit qu'il va manifester cette puissance dans le changement de son peuple. Eux qui avaient connu l'exil et eux qui vont maintenant sortir dans la joie. Et par cela, Dieu va faire quoi? Voyez dans le verset 13, la fin. Cela contribuera à la réputation de l'Éternel, un signe éternel. Aujourd'hui, quand on fait une réputation, peut-être si on est sur Instagram, pour faire une réputation, il faut faire quoi? Poster des belles photos, non? Photos vraiment sympas, si on est un footballeur, comment il faut faire une réputation? Faire beaucoup de buts, être très très fort, plus fort que les autres. Et Dieu, sur son compte Instagram, comment il fait une réputation? La joie de son peuple, aveugle et sourde, qui accepte et vit le miracle de la grâce, de recevoir sa parole et vivra avec joie. Ça, c'est quelque chose, hein? Et c'est nous. Est-ce que vous avez la joie que le Seigneur vous donne? Vous faites la réputation de ce Dieu. Voilà. Voilà ce qui représente son cœur. Voilà ce qui représente sa mission de prendre la terre désertique et de faire pousser la joie et la paix dans les vies humaines afin que lui y soit glorifié. C'est quelque chose, hein? Et c'est quelque chose d'être son peuple, de pouvoir assister à cette réputation de Dieu dans la transformation de nos vies. Tu sais, on a vu, hein? Tout est possible grâce à l'œuvre de ce serviteur. Sans lui, sans Dieu, on serait comme le peuple en Ésaïe 6. Et quoi de mieux pour vraiment penser que les pensées de Dieu sont supérieures aux nôtres? Comment Dieu a fait ça? Et qui aurait cru que Dieu allait venir lui-même? Et Jean chapitre 1, il a appelé comment Jésus qui vient? La parole, le logos de Dieu qui vient, qui s'est fait chair, qui devient chez nous, qui vit la vie que nous aurions dû vivre, qui va jusqu'au bout, qui prend sur lui nos péchés, qui échange toute la gloire du ciel pour un monde rempli de rances et d'épines, juste à porter une couronne d'épines sur sa tête à la croix. Et à la croix, il crie « J'ai soif » parce qu'il connaît l'exil suprême, il connaît le jugement suprême à notre place. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité, prémisse ultime d'une nouvelle création, une résurrection. Il envoie son esprit et il nous invite à partager dans cette joie et d'être les promises, nous, en tant que ses disciples, de cette joie et cette vie. On voit encore plus à quel point cette invitation, Ésaïe 55, est pour nous aujourd'hui. Donc, vous êtes invités. C'est le thème de ce matin. Vous êtes invités à écouter. Parce que Dieu, vous avez soif, on a soif pour ce que Dieu seul peut donner. Et puis dans l'écoute, être prêt, être changé, à vivre la repentance, à caler nos vies sur les voies de Dieu. Et on a tous des progrès à faire. Et c'est quand même fort que ce passage présente la repentance comme une fête, non? Tu vois, quand tu vois les moments dans ta vie où il faut changer, tu dis, Seigneur, ça ne te plaît pas, je dois changer ça. Et ici, dans ce chapitre, c'est comme une fête, c'est comme manger un super repas. Et c'est d'accepter la pluie qui peut produire la joie. Donc, je vous invite, peut-être même ce matin, il y a des sujets, vous savez, le Seigneur est en train de vous inviter à quitter une voie pour rejoindre une autre. Le Seigneur veut accepter cette pluie. Elle va produire la vie. Donc, répondez. Venez. Venez à Jésus. Venez écouter. Venez être changé. Et vivons avec cette joie. Amen. Je vais prier. Seigneur, je pense aux paroles de ce vieux cantique. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser nous. Et Seigneur, c'est vrai, on a besoin de cette vie que tu donnes. Aide-nous à être à ton écoute. On est dans cette période de l'Avent avant Noël et donne-nous les occasions de nous poser, de t'écouter. Et Seigneur, là où tu veux nous changer, tu veux nous appeler à quitter certaines choses, à lâcher certaines choses, à accepter, à avoir nos vies marquées par tes voies. Seigneur, donne-nous cette grâce. et produire la joie. Seigneur, on veut cette joie qui est pas, qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, mais tu donnes. Donc remplis cette église. Merci déjà pour la joie qui est évidente. Continue à nous remplir avec ta joie et ta paix pour la gloire de ton nom, afin qu'on soit des acteurs qui font cette réputation de ton nom. Au nom de Jésus, amen.